Chapitre 15. Révélation de Dieu à Abram. Le bouclier et la récompense d'Abram. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision, disant « Abram, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Verset 1. L'Éternel ne permettra pas que son serviteur perde rien pour avoir rejeté les offres du monde. Il valait infiniment mieux pour Abram se trouver abrité derrière le bouclier de l'Éternel que de se réfugier sous la protection du roi de Sodome. Attendre sa très grande récompense que d'accepter les biens du roi de Sodome. La position dans laquelle Abram est placé ici représente d'une manière admirable celle dans laquelle nous sommes introduits par la foi en Christ. L'Éternel était son bouclier, afin qu'il se repose en lui. L'Éternel était sa récompense, afin qu'il s'attende à lui. Et ainsi, maintenant, le croyant trouve aussi son repos, sa paix, sa sécurité, son tout, en Christ. Aucune flèche de l'ennemi ne peut pénétrer le bouclier qui protège le plus faible disciple de Jésus. Et quant à son avenir, Christ le remplit. Tout est rendu infailliblement sûr par les conseils de Dieu et par l'expiation que Christ a accomplie. Nous jouissons actuellement de ces choses par le ministère de l'Esprit-Saint qui demeure en nous. Et puisqu'il en est ainsi, il est évident que le croyant qui poursuit une carrière mondaine ou qui se laisse aller à des désirs charnels ne saurait jouir ni du bouclier ni de la récompense. Si le Saint-Esprit est attristé, il ne nous fera pas jouir de ce qui constitue la part et l'espérance propre du croyant. C'est lorsque Abram, revenu de la bataille, a refusé l'offre du roi de Sodome, que Dieu se présente à lui sous ce double caractère, comme son bouclier et sa très grande récompense. Le fils et l'héritier. La suite du chapitre expose les deux grands principes sur lesquels repose la qualité de fils et celle d'héritier. Et Abram dit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abram dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. » Versets 2 et 3. Abram désirait un fils, car il savait par la parole même de Dieu que sa semence devait hériter du pays. Chapitre 13, verset 15. Les qualités de fils et d'héritier sont inséparablement unies dans les pensées de Dieu. Celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Verset 4. La qualité de fils est la vraie base de la bénédiction promise. Elle est le résultat du conseil souverain et de l'opération de Dieu, ainsi que nous lisons dans l'épître de Jacques, de sa propre volonté, il nous a engendrés. Chapitre 1, verset 18. Enfin, cette qualité repose sur le principe éternel et divin de la résurrection. Le corps d'Abraham était déjà amorti, déjà marqué par la mort, de même que le sein de Sarah. Romains 4, verset 19. De sorte qu'un fils ne pouvait apparaître sans la puissance de la résurrection. Ce qui est mort ne saurait ni engendrer, ni concevoir quoi que ce soit pour Dieu. L'héritage, dans toute son étendue et sa beauté, se déployait sous les yeux d'Abraham. Mais l'héritier, où était-il ? L'Éternel est le Dieu de la résurrection. C'est pourquoi ce qui est mort est précisément ce qu'il lui faut pour déployer sa puissance et réaliser ses desseins. Une scène de mort d'où sont exclues toutes les prétentions de l'homme, voilà ce qui convient le mieux au Dieu vivant. Alors l'Éternel dit à Abraham, « Regarde les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta semence. » Quand c'est le Dieu de résurrection que l'âme contemple, il n'y a pas de limite aux bénédictions dont elle est l'objet, car rien n'est impossible à celui qui peut donner la vie à un mort. La foi qui justifie. Et Abraham crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. Verset 6. L'imputation de la justice qui est faite ici à Abraham repose sur sa foi en Dieu comme en celui qui vivifie les morts. C'est sous ce caractère que Dieu se révèle dans un monde où règne la mort. Et l'âme qui croit en lui est tenue pour juste devant lui. La coopération de l'homme est, par cela même, nécessairement exclue. Car que pourrait-il faire au milieu d'une scène de mort? Aussi longtemps qu'un homme est sous la puissance de la mort et sous la domination du péché, il ne peut connaître ni la relation de fils, ni la justice. Dieu seul peut conférer à l'homme la position d'enfant, comme lui seul peut lui imputer la justice, et ces deux choses sont liées à la foi en lui comme en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est sous cet aspect que l'Épître aux Romains nous présente la foi d'Abraham. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Chapitre 4, versets 23 à 25. Le Dieu de résurrection nous est présenté à nous aussi comme l'objet de la foi et notre foi en lui comme le seul fondement de notre justice. Si après avoir élevé ses yeux vers la voûte céleste parsemée d'innombrables étoiles, Abraham les avait ensuite arrêtés sur son corps déjà amorti, jamais il n'aurait pu recevoir la pensée d'une semence aussi nombreuse que les étoiles. Mais Abraham n'eut pas égard à son propre corps, mais à la puissance de Dieu en résurrection. Et c'est cette puissance qui devait faire naître la semence promise. La foi en Christ mort et ressuscité. De même, si un pécheur qui entend la bonne nouvelle de l'Évangile pouvait voir de ses yeux la pure lumière de la présence de Dieu, et qu'ensuite il descende dans les profondeurs inexplorées de sa propre nature pécheresse, il pourrait avec raison s'écrier « Comment parviendrai-je jamais en la présence de Dieu? Comment serai-je jamais en état d'habiter dans cette lumière ?» Mais si lui se voit absolument sans ressources, Dieu répond à tous ses besoins par Jésus-Christ qui est descendu du sein du Père jusque sur la croix et dans la tombe, et qui a été élevé plus haut que les cieux. Il ne peut rien y avoir de plus élevé que le sein du Père, la demeure éternelle du Fils, et rien de plus bas que la croix et le sépulcre. Mais nous trouvons Christ dans le sein du Père et dans le sépulcre. Il est descendu dans la mort afin de laisser derrière lui, dans la poussière de la tombe, tout le poids des péchés et des iniquités de son peuple. La tombe de Jésus est la fin de l'homme naturel, la fin du péché. Mais la résurrection nous transporte au-delà de ce terme et constitue le fondement impérissable sur lequel la gloire de Dieu et le bonheur de l'homme reposent pour jamais. Dès que l'œil de la foi contemple le Christ ressuscité, il trouve en lui une réponse triomphante à tout ce qui concerne le péché, le jugement et la mort. Celui qui a vaincu la mort et a satisfait à la justice de Dieu est ressuscité et s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux. De plus, l'esprit de celui qui est ressuscité et glorifié fait du croyant un fils. Le croyant est sorti vivifié de la tombe de Christ, comme il est écrit, « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. » Colossiens 2, verset 13. Les souffrances avant l'entrée en possession de l'héritage. Le Seigneur dit à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. » Verset 7. Ici est présentée et traitée la grande question de l'héritage, ainsi que le chemin spécial que les héritiers ont à parcourir avant qu'ils parviennent à l'héritage promis. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8, verset 17. Le chemin qui conduit au royaume passe par la souffrance, l'affliction et la tribulation. Mais, grâce à Dieu, par la foi, nous pouvons dire « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. » Romains 8, verset 18. Et encore « Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Et enfin, nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Romains 5, versets 3 et 4. C'est un grand honneur et un privilège réel pour nous qu'il nous soit donné de suivre le même chemin que notre bienheureux Maître et de traverser, dans une bienheureuse communion avec lui, le chemin qui conduit directement à notre glorieux héritage. L'héritier et les co-héritiers parviennent à cet héritage par le sentier de la souffrance. Toutefois, souvenons-nous que les souffrances auxquelles les co-héritiers participent sont dépourvues de tout élément pénal. Ils n'ont pas à souffrir sous la main de la justice de Dieu à cause du péché. Cette souffrance-là, Christ, la sainte victime, l'a pleinement endurée et épuisée sur la croix pour nous, lorsqu'il a courbé sa tête sainte sous les coups de la justice divine. Car aussi, Christ a souffert une fois pour les péchés. 1 Pierre 3, verset 18. Et ce une fois, ce fut sur la croix, et nulle part ailleurs. Il n'a jamais souffert pour le péché auparavant, et il ne pourra jamais souffrir de nouveau pour le péché. En la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Hébreux 9, verset 26. Le Christ ayant été offert une fois. Hébreux 9, verset 28. Il y a deux manières d'envisager le Christ souffrant. D'abord, comme frappé par Dieu, ensuite, comme rejeté par les hommes. Sous le premier aspect, il a souffert tout seul. Sous le second, nous avons le privilège et l'honneur de lui être associés. Frappé pour le péché durant les 3 heures de ténèbres, Christ porta seul la colère de Dieu et régla pour toujours la question de nos péchés. À cette partie des souffrances de Christ, nous ne pouvons participer en aucune manière. Christ a combattu et a remporté la victoire tout seul, mais il partage le butin avec nous. Il était seul dans le puits de la destruction et le bourbier fangeux. Psaume 40, verset 2. Mais dès qu'il pose son pied sur le roc de la résurrection, il nous associe à lui. Il était seul quand il a jeté le grand cri sur la croix. Marc 15, verset 37. Mais il a des compagnons quand il chante le cantique nouveau. Psaume 40, verset 2 et 3. La question pour nous est de savoir si nous refuserons de souffrir avec lui de la part des hommes après qu'il a souffert pour nous de la part de Dieu. Que ce soit là une question est, en un sens évident, à cause de l'emploi constant que fait le Saint-Esprit du mot « si » en relation avec ce sujet. « Si du moins nous souffrons avec lui » Romains 8, verset 17. « Si nous souffrons, nous régnerons » de Timothée 2, verset 12. Il n'y a pas de question lorsqu'il s'agit de la qualité de fils. Nous ne parvenons pas à la haute dignité de fils par la souffrance, mais par la puissance vivifiante du Saint-Esprit, fondé sur l'œuvre de Christ, selon le conseil éternel de Dieu. Rien ne peut toucher à cette position. Nous ne devenons pas membres de la famille par la souffrance. Et Paul ne dit pas cela aux Thessaloniciens, mais « pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. » 2 Thessaloniciens 1, verset 5. Les Thessaloniciens faisaient déjà partie de la famille, mais ils étaient destinés au royaume. Et c'est au travers de la souffrance que passe le chemin qui y conduit. De plus, la mesure de leur souffrance pour le royaume était en rapport avec le degré de leur dévouement et de leur conformité au roi. Plus nous lui serons semblables, plus aussi nous souffrirons avec lui. Et plus notre communion avec lui dans ses souffrances sera profonde, plus aussi le sera notre communion avec lui dans la gloire. Il y a une différence entre la maison du Père et le royaume du Fils. Dans la première, il s'agit d'une position conférée. Dans le second, il s'agit de capacité. Tous mes enfants peuvent être assis à ma table, mais la jouissance qu'ils ont de ma compagnie et de ma conversation dépend entièrement de leur capacité. L'un d'eux peut être assis sur mes genoux, dans la pleine jouissance de sa relation d'enfant avec moi, sans être capable de comprendre une seule de mes paroles. Un autre, peut-être, fera preuve d'une rare intelligence dans la conversation, sans être, pour autant, plus heureux que le petit enfant que je tiens sur mes genoux. Mais s'il est question du service de mes enfants envers moi, ou de leur identification publique avec moi, c'est évidemment tout autre chose. La comparaison dont je viens de me servir n'est qu'une faible image, mais elle sert à faire ressortir la double idée de capacité dans le royaume du Fils et de position conférée dans la maison du Père. Souvenons-nous, toutefois, que souffrir avec Christ n'est pas un joug d'esclave, mais un privilège et un dévouement volontaire. Non une loi de fer, mais une faveur de la grâce. À vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, verset 29. De plus, il est bien certain que le vrai secret des souffrances pour Christ, c'est que nos affections soient concentrées sur lui. Plus nous aimerons Jésus, plus aussi nous nous tiendrons près de lui. Et plus nous nous tiendrons près de lui, plus nous l'imiterons fidèlement. Et plus nous l'imiterons fidèlement, plus aussi nous souffrirons avec lui. Tout découle donc de l'amour pour Christ. Et si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Prenons garde de ne pas vouloir les bénéfices que la croix nous assure, tout en refusant de participer à la réjection qu'elle implique. Le sentier qui conduit au royaume n'est pas celui de la faveur du monde. Quand un chrétien réussit dans le monde, il y a tout lieu de craindre qu'il ne marche pas en communion avec Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Jean 12, verset 26. Quel était le but de la carrière terrestre de Christ? A-t-il cherché à obtenir une position élevée dans ce monde? Non. Mais il trouva sa place sur la croix, entre deux brigands condamnés. Cela entraîne nécessairement notre réjection de la part du monde si nous marchons avec Christ. Notre association avec Christ nous ouvre le ciel et nous rejette hors de ce monde. Or, si nous faisons profession d'être du ciel sans que le monde nous rejette, cela prouve qu'il y a quelque chose de faux dans la position que nous avons prise. Que Dieu nous rende fidèles envers notre Maître absent, crucifié et rejeté. La vision d'Abraham. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils l'asserviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi, je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis, et après cela, ils sortiront avec de grands biens. » Et il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici une fournaise fumante et un brandon de feu qui passa entre les pièces des animaux. Versets 12 à 17. On peut dire que l'histoire entière d'Israël est résumée dans ces deux figures de la fournaise fumante et du brandon. La fournaise évoque les diverses époques pendant lesquelles les Israélites ont été mis à l'épreuve et ont souffert. Leur longue servitude en Égypte, les temps de leur assujettissement au roi de Canaan, les temps de leur captivité à Babylone et les temps enfin de leur dispersion actuelle. On peut considérer Israël comme passant au travers de la fournaise fumante pendant toutes ces différentes périodes. Vous voyez Deutéronome 4, verset 20, 1 Roi 8, verset 51, Ésaïe 48, verset 10. Le brandon, au contraire, est l'image de ces périodes de l'histoire d'Israël dans lesquelles l'Éternel apparaît en grâce pour secourir les siens. Telles sont la délivrance d'Égypte par la main de Moïse, la délivrance de la puissance des rois de Canaan par le ministère des juges, le retour de Babylone en vertu du décret de Cyrus, et enfin la délivrance finale du peuple quand Christ apparaîtra dans sa gloire. On ne parvient à l'héritage qu'au travers de la fournaise fumante. Et plus la fumée du four est épaisse, plus aussi sera brillant le brandon du salut de Dieu. L'application de ce principe ne se limite pas au peuple de Dieu considéré dans son ensemble, mais elle concerne encore chacun de ceux qui le composent. En particulier, tous les serviteurs de Dieu, auxquels il a été donné une position éminente, ont passé par la fournaise fumante. Jacob eut à supporter 20 années de rudes travaux dans la maison de Laban. Joseph trouva l'affliction dans les prisons d'Égypte. Moïse passa 40 ans dans le désert. Être enfant de Dieu est une chose, être serviteur de Christ en est une autre. Si je place mon enfant dans mon jardin, il y fera peut-être plus de mal que de bien. Pourquoi? Il est un enfant bien-aimé, mais il n'est pas un serviteur exercé. Une relation et un emploi sont deux choses distinctes. Tout enfant de Dieu a quelque chose à faire, à souffrir, à apprendre, mais il demeure toujours vrai que le service public et la discipline secrète sont intimement unis dans les voies de Dieu. Il faut que celui qui paraît beaucoup en public ait cette disposition humble, ce jugement mûr, cet esprit soumis et mortifié, cette volonté brisée, ce ton doux, qui sont les beaux et sûrs résultats de la discipline secrète de Dieu.